لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours du Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali hafizahullah ta'ala Mudhakkiratu al-Tawhid. Nous sommes arrivés dans le hadith numéro 10, al-hadithu al-ashir, hadith numéro 10. Al-tamassuku bil-kitabi wa-sunnah وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. L'attachement, le cramponnement au livre et à la sunna et à celle des califes, des successeurs bien guidés. عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي. D'après le compagnon Abu Najih Al-Irbad Ibn Sariya رضي الله عنه qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés d'une exhortation énorme, touchante, qui a fait frémir les cœurs, trembler les cœurs et pleurer les yeux, c'est-à-dire que les larmes ont coulé des yeux. Alors nous avons dit: ô messager d'Allah, c'est comme une exhortation, ceci ressemble à une exhortation d'adieu. Alors, conseille-nous, donne-nous des recommandations. Il dit, alayhi salatu wassalam, je vous conseille, je vous recommande la crainte d'Allah, la piété envers Allah, et d'écouter et d'obéir, même si celui qui prend le pouvoir est un esclave sur vous. Car celui qui vivra ou ceux qui vivront après moi verront beaucoup de divergences, beaucoup de disputes, beaucoup de discordes. Alors, Cramponnez-vous à ma tradition, à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents avec vos canines. Et attention et à toute nouveauté en religion, car toute innovation est un égarement. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Tirmidhi précise que le hadith il est bon et authentique. Et le hadith est aussi rapporté, c'est-à-dire que le thème du hadith en lui-même, il est rapporté par d'autres, mais là, c'est la version de Abu Daoud et de Tirmidhi. Il est aussi rapporté par Ahmed ibn Majah et Ad-Darimi. Sahabiyu al-Hadith, le compagnon qui a rapporté le hadith. Al-Irbad ibn Sariya al-Sulami Abu Najih nazala Hims wa mata ba'da al-Sab'in. Donc il a terminé sa vie en Syrie, dans la ville de Homs, Hims, et il est mort après l'an 70 de l'Hégire. Parfois on n'a pas la date exacte, mais on sait que en l'an 70 de l'Hégire il était encore vivant. Donc il est mort après l'an 70 de l'Hégire. Radiallahu anhu. Al-Mufradat, le vocabulaire. Al-Maw'idha hiya al-tadhkir billahi wa al-takhwif min ghadabihi wa 'adhabihi. Al-Maw'idha, le terme Maw'idha en arabe, c'est un rappel. C'est un tadhkir, c'est-à-dire un rappel. C'est-à-dire un rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dedans, dans ce rappel, il y a de faire peur, de faire craindre de la colère d'Allah et de son châtiment. Donc c'est un rappel qui est accompagné de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que de sa colère et de son châtiment. C'est une exhortation dans laquelle il y a cette crainte et cette peur. Balira ay mu'athira. Le terme balira ici, c'est mu'athira, touchante, qui a eu un impact, un effet sur les personnes, sur les cœurs. Mu'athira tasilu ila qulub as-sami'in. Donc c'est un rappel, une exhortation qui est tellement touchante qu'elle atteint, elle traverse le corps et elle atteint les cœurs des personnes présentes qui entendent. تصلوا إلى قلوب السامعين بأحسن الألفاظ وأفصحها وأعذبها. Et les mots qui sont employés dans ce rappel, dans cette exhortation, ce sont les meilleurs termes qui sont employés, les plus clairs dans la langue et les plus touchants. وجلت القلوب خافت. C'est-à-dire que les cœurs ont eu peur, ont eu la crainte. ظرفت العيون سالت منها الدموع. C'est que les larmes ont coulé des yeux. فأوصينا الوصية الأمر المؤكد المقرر. Donc c'est un conseil qui est fortement recommandé et demandé. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه شيئاً يمنعك ويقيك. Qu'est-ce que la piété? C'est que tu mettes entre toi et ce que tu crains, ce dont tu as peur, une chose qui va te protéger, qui va te préserver, qui va te mettre à l'abri. Donc c'est une protection. Et donc c'est pour ça que la taqwa c'est comme un bouclier, le bouclier dont le soldat s'en sert pour contrer les flèches et les coups d'épée ou de lance. Donc, at-taqwa, c'est comme un bouclier. C'est ce qui te permet de te protéger de la colère d'Allah et du courroux d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de son châtiment, tout ce qui fait entrer dans le feu de l'enfer. Et comme l'a bien expliqué un des tabi'in, ou un des salaf, qui s'appelle Talq ibn Habib, rahimahullah, il dit sur at-taqwa, c'est que tu agis sur une lumière d'Allah, avec science, la lumière d'Allah c'est la science,
en espérant le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est dans le sens de, ses, de sa phrase, et que tu t'éloignes, tu t'abstiens de ce qu'Allah a interdit sur une lumière d'Allah, c'est-à-dire sur une science. Tu en as connaissance, tu crains le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait d'accomplir les actes obligatoires et de s'abstenir, de s'éloigner des actes interdits. Puis la piété, elle a des degrés. Plus la personne elle agit en bien, et plus elle fait preuve de piété. Plus elle agit en mal, et moins elle fait preuve de piété. Donc, le premier stade, ce sont les actions obligatoires. On les accomplit. Les actions interdites, on s'en éloigne, on s'en abstient. On ne les commet pas. Puis vient l'autre stade qui est l'accomplissement des actes surérogatoires, conseillés, et l'éloignement des actes déconseillés. Et plus la personne agit ainsi, et plus elle fait preuve de piété envers Allah, et plus il s'approche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et plus il est le bien-aimé d'Allah, azza wa jal, et il est l'allié d'Allah, azza wa jal. As-sunnah, la sunnah, at-tariq wal-manhaj, c'est le chemin, la voie. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. Donc il comprend ce terme as-sunnah, les enseignements, l'attachement aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, d'être sur la voie, le chemin, la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses califes bien guidés venus après lui, ceux qui lui ont succédé à la tête de la communauté musulmane, c'est-à-dire les quatre califes Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال. Que ceci concerne les questions dogmatiques de la croyance ou des paroles ou des actes. البدعة إحداث أمر في الدين لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد أصحابه. البدعة, l'innovation, c'est de faire un acte qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ni à l'époque de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. الراشدون من الرشد وهو ضد الغي, c'est la guidée, le contraire de la déviation, de l'égarement. المهديون الموفقون لإدراك الحق واتباعه. المهديون, c'est le pluriel de Mahdi. الراشدون, c'est le pluriel de Rashid. Ici, المهديون, ce sont ceux qu'Allah a octroyé la réussite pour atteindre la vérité et suivre la vérité. C'est ceux qu'Allah a guidé vers la vérité et le suivi de la vérité. الضلال هو الذهاب والبعد عن الحق وهو ضد الهدى. L'égarement, c'est de s'en aller, de s'éloigner de la vérité, c'est le contraire de la guidée. المعنى الإجمالي, le sens global, général du hadith. هذا الحديث أصل عظيم وفيه توجيهات عظيمة جامعة. Ce hadith est un fondement dans la religion, une règle de base dans la religion, et il comporte beaucoup de directives et de recommandations générales. فقد أسدى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة الإسلامية حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامها واتباعها ولا حل لمشاكلهم إلا بتنفيذها بدقة. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne beaucoup de recommandations, de directives, de conseils énormes venant de sa part alayhi salatu wassalam qui touchent la communauté islamique. Il aura montré dans ce hadith les enseignements qu'il faut appliquer, qu'il faut s'y attacher pour pouvoir préserver et garder la religion et aussi bien vivre dans ce bas monde. Et on ne peut atteindre cela qu'en appliquant ces enseignements prophétiques et de les suivre. Il n'y a aucune autre issue, aucune solution pour sortir des problèmes, des soucis que vit la communauté si ce n'est d'appliquer ces enseignements. Premièrement, فَلَا دِينَ إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ. Il n'y a pas de religion sans piété d'Allah, sans crainte d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ. Et c'est le fait, ceci consiste à obéir à Allah Azza wa Jal en appliquant ses ordres et en s'abstenant, en s'éloignant de ses interdits. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint, recommandé, ordonné à toutes les communautés, même avant nous, la crainte d'Allah et la piété envers Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'Allah a ordonné à ceux d'avant et à cette communauté même. Comme Allah le dit bien dans le Coran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهِ. Et nous avons ordonné à ceux d'avant vous, parmi les gens du livre, ainsi qu'à vous-même, la crainte d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se le doit, de la meilleure manière, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Plein de versets. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour le lendemain. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous retournerez à Allah, Azza wa Jal. De même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit que attaqwa est le meilleur habit que peut porter le musulman, le croyant. Et c'est la meilleure provision qui te sera utile et bénéfique dans l'au-delà. Comme Allah dit dans le Coran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et approvisionnez-vous, prenez vos provisions, vous en aurez besoin pour le long voyage de l'au-delà. Et la meilleure provision, c'est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui êtes dotés de raison. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'avec la taqwa, avec la piété, Allah il nous ouvre les portes, il nous donne la subsistance. De là où on ne l'attend pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui fait preuve de crainte d'Allah, de piété envers Allah, Allah lui ouvre les portes et lui donne sa subsistance de là où on ne l'attend pas. Et plein d'autres versets coraniques dans lesquels Allah, tabaraka wa ta'ala, nous enjoint, nous ordonne d'être, de faire preuve de piété, de crainte. De même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, ittaqi Allah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi an-nas bi khuluqin hasan. Crains Allah là où que tu sois, dans n'importe quel endroit, tu dois de faire preuve de crainte d'Allah et de piété envers Allah azza wa jalla, que tu sois seul, isolé ou en public. D'accord? Tu dois tout le temps faire preuve de piété envers Allah et te rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala, que même si tu es seul, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'échappes pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il te voit, il t'entend subhanahu wa ta'ala, il est avec nous de par sa science subhanahu wa ta'ala. Donc la personne se doit de faire preuve de crainte et de piété envers Allah azza wa jalla et fait suivre la mauvaise œuvre d'une bonne œuvre qui viendra l'effacer, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et dans le hadith aussi de le hadith Qudsi, à thème divin, où Allah dit Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Celui qui devient l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une action plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des actes surrogatoires conseillés jusqu'à que je l'aime. طيب ثانيا, deuxièmement, ولا قيام لدينهم ولا دنياهم إلا بإمام صالح عادل يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم شريعة الله وينظم صفوفهم ويوحد كلمتهم ويرفع لهم راية الجهاد لإعلاء كلمة الله وعلى الأمة أن تسلم له زمام الطاعة فيما تحب وتكره ما دام مستقيما على أمر الله ومنفذا لأحكامه. Et la communauté ne peut survivre et exister si ce n'est qu'elle est réunie autour d'un gouvernant, autour d'une autorité, d'un gouvernant, un imam. Le mot imam, comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, qu'est-ce que veut dire imam? C'est celui qui est devant, c'est celui qui est le responsable. Donc celui qui fait l'imam pour la prière parce qu'il est devant, c'est celui qui préside les prieurs. Les gens prient selon sa prière à lui, ils le suivent dans les grands gestes de la prière. De même, celui qui est à la tête de la communauté, on l'appelle aussi imam. Donc le terme imam veut dire celui qui est devant, celui qui préside, d'accord? Donc quand le prophète sallam dit les sept qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura donc que la sienne, il a commencé par imamun adil, hein? C'est pas l'imam qui préside la prière ici, c'est le gouvernant. Un gouvernant qui est juste, qui est droit. Ici, le terme imam veut dire gouvernant. Donc, un gouvernant qui est pieux, vertueux, droit, juste, hein, et qui dirige la communauté avec le livre d'Allah, la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui applique sur eux les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui gère leur vie de tous les jours, et qui réunit leurs paroles et leurs rangs, et qui élève l'étendard du combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, et la communauté se doit de se soumettre à lui, à ce gouvernant. Elle lui doit obéissance, elle lui doit écoute et obéissance, qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, là n'est pas la question. Elle est obligée d'obéir à ce gouvernant. Bien sûr, l'obéissance, quand on parle d'obéissance, c'est toujours dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une question qui ne s'oppose pas. Il n'y a pas d'obéissance à une créature lorsque cela amène à la désobéissance du créateur. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance, elle n'est que dans le bien, dans ce qui est permis. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature lorsque cela amène à la désobéissance du créateur. Donc quand on parle d'obéissance, d'écoute et d'obéissance, les ulama, lorsqu'ils en parlent, ils sous-entendent par là dans ce qui n'est pas interdit. Tant que ce qui t'est demandé n'est pas interdit, il t'est un devoir d'écouter et d'obéir à l'autorité, au gouvernant musulman. Ça, c'est une obligation. Et la question n'est pas j'ai envie d'obéir, j'ai pas envie d'obéir, j'aime ou je n'aime pas cette action. Non. Tant qu'il ne t'a pas demandé un interdit, c'est un devoir pour toi de lui obéir. Ça, c'est une obligation religieuse. C'est une obligation religieuse. Dans ta facilité, dans ta difficulté, que tu aimes ou que tu détestes, tu te dois d'obéir. De même, quand on dit une épouse, elle doit obéissance à son mari. L'obéissance au mari, elle n'est que dans ce qui est permis. Une femme n'a pas le droit d'obéir à son mari s'il lui demande une chose qui est interdite. De même, lorsqu'on parle d'obéissance des parents, l'enfant se doit d'obéir à ses parents, d'écouter ses parents. Mais si les parents demandent une chose qui est interdite, il n'a pas le droit d'obéir à ce moment-là. Donc, ce qui est interdit, c'est d'obéir dans une chose qui amène la désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. En dehors de cette question-là, dans tout le reste, tu te dois d'écouter et d'obéir.
ولمصلحة الإسلام والمسلمين وحفاظا على وحدتهم وحقنا لدمائهم يفرض الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيا ما لم يخرج به العصيان إلى الكفر.
Et pour le bien, le bénéfice de la communauté musulmane, pour le bien, le bénéfice de l'islam, en islam, il n'y a pas d'égoïsme. Hein. Ce n'est pas pour mon bien personnel, pour moi. Non, le bien général l'emporte. Le bien général l'emporte. Et vous verrez que souvent dans l'islam, c'est une règle qui est prise en considération. Parce que vous avez des gens que pour leur bien personnel, ils sont prêts à amener la communauté à la perdition. Pour son bien personnel à lui, pour son intérêt personnel, il est prêt à amener la discorde, la confusion dans la communauté, quitte même qu'il y ait du sang qui soit effusé, tant que ça lui amène son bien à lui personnel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les règles même de l'islam et c'est quelqu'un qui contredit même la voie de l'islam. Donc, pour le bien général des musulmans et de l'islam, pour préserver, protéger leur unité, pour préserver, protéger leur sang, l'islam a rendu obligatoire d'obéir dans le bien, et ceci concerne toute la communauté, d'obéir au gouvernant, à l'autorité. Même si ce gouvernant, il fait des péchés, il est désobéissant, ça c'est son problème à lui. Toi, ce qui t'incombe, c'est d'écouter et d'obéir tant qu'il est le gouvernant. Et tant aussi qu'il n'est pas tombé dans la grande mécréance. Et ça, c'est un point qui est important. Et on le voit de nos jours, avec tous les problèmes que vit la communauté. La base de l'islam, c'est que il y a l'écoute et l'obéissance. Et chacun se doit de s'occuper de ses propres affaires à lui et de ce qui lui incombe. Le problème de la communauté, c'est quand ils entrent dans des sujets qui ne les concernent pas directement, qui n'en sont pas les responsables. Quand tout le monde veut entrer dans la politique, quand tout le monde veut avoir sa part dans un traité ministériel ou un traité international. Chacun dit, moi j'ai pas signé le traité, on t'a rien demandé à toi. Toi, on te demande d'écouter, d'obéir au gouvernant. Tu n'es ni ministre, ni autorité du pays. Le problème, c'est qu'on a fait croire aux gens que tous, tout à chacun, ils ont leur place et leur mot à dire là-dessus. Et ça, c'est un mensonge. Les frères musulmans ont bien trahi la communauté avec ces points-là. Ils leur ont fait croire des choses qui sont fausses, qui n'existent pas en islam. Tu es commerçant, tu es responsable de ton commerce. Tu te renseignes sur ton commerce. Tu te renseignes sur ce qui est permis, de ce qui est interdit. Dans ton domaine à toi, tu as une fonction bien précise. Tu questionnes, tu te renseignes, tu t'intéresses à ce qui va autour de ta fonction. Subhanallah. Un homme, il est marié, il a des enfants, il est responsable de son foyer, de sa famille. Il n'est pas responsable de la famille du voisin. Chacun, il a à sa place. Et celui qui a un poste, il a cette responsabilité-là et il a un intérêt à s'intéresser à son poste à lui. Mais si tout le monde entre dedans, tout le monde parle, ça ramène la confusion et la discorde. Et c'est pour cela que dans l'islam, il est interdit de parler ouvertement sur les autorités. Ce n'est pas que tu es d'accord avec un quelconque mal qui soit fait par l'autorité ou pas. Là n'est pas la question. C'est que c'est une règle. Une règle de base, on n'a pas le droit. Celui qui a quelque chose à dire, qu'il prend le bon chemin. On ne passe pas par les fenêtres, on passe par la grande porte. Si tu es capable, tu vas, tu toques à la porte, tu vas voir le gouvernement et tu lui dis ce que tu as à lui dire. Le conseil que tu as à lui prodiguer, tu lui donnes. Il accepte de toi, tant mieux, alhamdulillah. Il refuse, c'est son problème. Toi, tu t'es acquitté de ton devoir. Mais de parler sur le mimbar, de parler dans une conférence, dans un séminaire, hein, ça, ce n'est pas islamique. Jamais l'islam n'a appelé à cela. Ça n'existe pas en islam. En islam, il y a le respect. Il y a l'ordre. Donc, une personne a là une responsabilité, on fait des doigts pour lui. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont mis. Et ça, c'est mis dans des livres de aqida, subhanallah. Dans des livres de aqida, c'est pour montrer que le sunna se distingue des gens de l'innovation. Ils ont mis dedans, parfois, il y a des savants qui mettent des souliers sur les chaussettes ou les chaussons. On l'a dans des livres de croyance. Quelqu'un pourrait se poser la question, c'est quoi le lien? C'est une question qu'on retrouve dans le fiqh, dans les ablutions, dans la purification. Pourquoi ils l'ont mis? Pourquoi? Parce que le sunna sont unanimes sur le fait d'essuyer sur les chaussons. D'accord? Ils ne sont connus pour contredire cela que les gens de l'innovation. De même, ils ramènent le chapitre, la position d'Ahl sunna concernant les gouvernants. On leur doit écoute, obéissance, on n'a pas le droit de se soulever contre eux. On leur fait des doigts. Même ce point-là, ils le ramènent. Les signes de Ahl sunna, c'est qu'ils font des doigts pour les gouvernants. Parce que les gouvernants, ils gagnent le fruit de tes doigts. C'est toute la communauté qui gagne. Si ça va bien, tout va aller bien. Ça va suivre. Et un des signes des gens de l'innovation, c'est qu'ils font des doigts contre leur gouvernement. Pourquoi ils le ramènent? Parce que ça, ce sont des points parmi les fondements d'Ahl Sunna. Ils sont unanimes là-dessus. Et n'appelle au soulèvement, ne parle sur les gouvernants que les gens qui ont plus ou moins de la Khalijiyya en eux. Et beaucoup de gens ont ce problème-là. Ils ont ces formes-là de Khalijiyya, de cette secte de Khalijiyya. Hein, parmi leurs points distinctifs, c'est de parler sur l'autorité, de parler sur les gouvernants et de pousser, d'encourager au soulèvement et ainsi de suite. Et ne vous attendez pas qu'ils viennent vous parler avec des mots qui vont vous faire fuir. C'est ça le problème. Et là ils disent, oui mais ils parlent bien, mais tu croyais quoi quand même? Tu croyais quand même pas qu'ils allaient venir te faire fuir? Mais non, obligé qu'ils viennent avec du miel. Il faut que ça soit sucré. Subhanallah. C'est qu'après que tu vois le résultat. Les gens pensent que la personne va venir, va dire, moi, je t'appelle à quoi? À l'effusion du sang dès le premier jour. Mais non. Non, il ne va jamais. Il sait que ses paroles ne vont pas trop être écoutées. Subhanallah. C'est normal qu'il vienne vous dire quoi? Non, mais le gouvernant, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Et toi, tu peux, t'es amené. Si tu n'as pas une connaissance religieuse suffisante, un attachement à la sunna suffisant, tu peux à tout moment pencher. C'est attirant. Et donc, il va commencer à te faire détester le gouvernant. Si toi, déjà, tu le détestais, bon, bah, ça ne va que en rajouter. Subhanallah. Et donc, et voilà. Et ça amène à tout cela. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qu'on reproche à Daesh. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens de la communauté, des gens de la masse, au fond d'eux, pour eux, Daesh, c'est l'islam. Pour eux, quand ils voient Daesh, ils disent c'est l'islam. C'est normal, vous avez vu ce que les musulmans subissent, donc c'est normal qu'il y en a qui se... Voilà. Et ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Mais d'un autre côté, ils ne le montrent pas ouvertement. A'oudhu billah. On est contre eux du fort de notre intérieur. Ce n'est pas parce qu'on a peur d'une autorité ou quoi, parce que c'est la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, qu'est-ce qu'il en est de ces gens-là? Ce sont les chiens de l'enfer. Et ils viennent avec les paroles des meilleures paroles, des meilleures créatures. Ils viennent avec les meilleures des paroles. Leurs paroles sont attirantes. Et ils lisent le Coran, ils font la prière, ils jeûnent. Même leur pratique religieuse, elle peut attirer. Et avec cela, ils quittent l'islam plus rapidement qu'une flèche ne quitte l'arc ou ne transperce sa proie. Il faut faire attention. Et Abdullah ibn Saba, ce juif qui s'est introduit chez les musulmans, qu'est-ce qu'il avait dit à son époque? Il avait dit, commencez à parler sur les gouvernants ouvertement. Et montrez que vous faites cela au nom de l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. Nous, on veut recommander le bien et interdire le mal. En faisant cela, vous allez gagner les gens. Parce que les gens sont attirés par ce genre de propos. Vous allez gagner leur cœur. Et ça, c'est une des portes pour amener la communauté vers la déviation. Et on voit ce qui se passe maintenant. Les prêcheurs, là, qu'ils soient en Arabie, qu'ils soient au Yémen, qu'ils soient en Irak, en Syrie, au Maghreb, ou je ne sais où, peut-être même en Europe aussi, tous ces prêcheurs qui ont soutenu les soulèvements, qui ont soutenu les manifestations, qui ont soutenu, ils sont où maintenant? Maintenant que le sang, il coule partout. Des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés. Demandez aux gens s'ils n'auraient pas voulu revenir en arrière. En fin de compte, c'était mieux de patienter comme on était que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Regardez la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen et ainsi de suite. Ces gens-là qui ont bougé, qui ont participé directement, ne l'ont fait que parce que avant cela, ils ont été préparés par des prêcheurs qui leur ont légitimé ces actions et qui leur ont soi-disant ramené des dalils, des preuves, de versets, de hadiths, mais comme eux les comprennent, avec leur propre compréhension, pas la véritable compréhension. Pendant que eux, ils vivent dans des palais ou dans des grandes villas et leurs enfants sont protégés et ils vivent très bien. Ne vous en faites pas, ils peuvent même aller à Disneyland, je ne sais où. Oui, ça c'est une réalité. Hein. Ils sont à Disneyland et tout, leurs enfants. Et pendant que les enfants des autres sont en train de périr et de mourir et d'être massacrés ici et là. A'udhu billah. Mais il y a une justice à laquelle personne n'échappera, celle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué, participé, ils auront des comptes à rendre. C'est pas une question à prendre à la légère. C'est pas une question de dire la religion, on la suit pas parce que c'est un effet de mode ou c'est parce que c'est une histoire de vengeance ou je ne sais quoi. Non, c'est parce que c'est la vérité. C'est une certitude. La tradition du prophète, sans salam, c'est une certitude. On doit la mordre à pleines dents, même si tu te trouves seul. On va essayer de te l'enlever. Les Khawarij premiers, ils ont regardé les Sahaba et leur ont dit, vous êtes des mécréants. Vous imaginez le degré? Ils ont regardé les Sahaba et leur ont dit, vous êtes des mécréants, vous avez apostasié. Ne soyez pas étonnés de ce que peuvent dire ces gens d'aujourd'hui. Subhanallah. En face d'eux, ce ne sont même pas des compagnons qu'il y a. Subhanallah. Donc ne soyez pas étonnés. Donc lorsqu'ils vous disent, ils vous ramènent les péchés, ou les erreurs ou les déversions d'un gouvernant, derrière, il y a quelque chose. Ça commence par le gouvernant, après ça part sur les ministres, après ça part sur tous ceux qui sont de près ou loin avec l'autorité, après ça va toucher l'armée, la police et la gendarmerie, après ça va toucher quoi? La population. Pourquoi? Parce que la population elle est d'accord avec l'autorité. Et tout le monde est mécréant. Jusqu'à la fin, il y en a, il peut dire que je suis tout seul le musulman sur terre. Ça, c'est arrivé. Il y en a, ils l'ont dit. À un moment donné, je crois que c'est tout seul. Il n'y avait personne comme musulman sur terre. Ce sont des gens qui sont capables de poser une bombe dans la mosquée du prophète. De poser une bombe dans la mosquée sacrée devant la Kaaba. Vous imaginez le degré ou pas? Ce n'est pas des questions à prendre à la légère. Ils l'ont déjà fait. La mosquée sacrée, il y a déjà eu une bombe qui a explosé dans la mosquée sacrée. En 1989, pour ceux qui en ont un souvenir. Subhanallah. C'est des gens, ils n'ont plus, il n'y a plus rien ne les retient. Subhanallah. Leur rêve, c'est de faire exploser la mosquée du prophète. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas le danger de ces gens-là. Il faut étudier ça. Al-Khawarij, c'est une secte égarée, quelle que soit la façon qu'elle apparaît ou le nom qu'elle porte, même il est super beau, mais au final, le contenu, c'est de l'égarement, c'est de la déviation. Subhanallah. Wallahu al-musta'an. Donc il faut arrêter de de défendre de près ou de loin, de trouver des excuses, parce que on est avec ceux qu'on aime. Il faut bien se le rappeler. Quand l'homme il a dit j'aime Allah et son messager, le prophète lui a dit tu seras avec celui que tu aimes. Et la personne elle est ressuscitée avec celui qu'il aime. Donc les gens de la déviation, il faut s'en éloigner. En islam, l'islam combat toute forme d'extrémisme. En islam, le terrorisme n'existe pas. Le terrorisme n'a pas de religion. D'accord ? Ce sont des gens qui se servent de la religion pour atteindre des buts bien précis. Bien précis. Et l'islam en est complètement innocent. Il en est innocent avant même qu'une bombe explose. Il en est innocent de ces gens-là. L'islam n'a rien à voir avec ses paroles ou ses idéologies ou ses actions qui sont contraires à l'islam. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas que les gens simples entrent dans des sujets qui les dépassent. Il n'y a qu'un fou pour s'occuper de sujets qui le dépassent. Subhanallah. De commenter tout sur Internet, dans les réseaux sociaux, là. On ne sait même pas d'où ils viennent, là. Ça parle de tout. Ils envoient des messages à un ministre, ils envoient des messages au président, ils envoient des messages au maire de la ville. Et subhanallah. Et en plus, au regard de tout le monde, n'importe qui peut regarder. Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation? Aucun respect, rien. Subhanallah. Ce n'est pas une éducation islamique. Subhanallah. Et il croit, ouais, mais je dis la vérité. Subhanallah, mais c'est... Dire, avoir la vérité, c'est une chose. La dire, c'en est une autre. Après, il y a le quand la dire, quel moment la dire, où le dire. C'est pas à tout va, subhanallah. Donc il faut arrêter. C'est pas parce que j'ai une envie de faire quelque chose, j'ai une bonne intention, que ça légitime ce qui va suivre. Fais attention. Mais apparemment, il y a des gens, leur langue, elle leur gratte, et leurs doigts aussi. Ils sont obligés de toucher les... sont obligés. Subhanallah. C'est comme la langue. Les doigts qui écrivent, que ce soit avec le stylo ou sur un écran, ou un clavier, ou la langue, c'est la même chose. C'est ce qui est une des grandes causes qui mène les gens dans le feu de l'enfer. Parce que les gens ne font pas attention. Ne font pas attention. C'est mieux de se contenir, de se retenir, de réfléchir. C'est en ma faveur, c'est pas en ma faveur. J'ai le droit, j'ai pas le droit, et ainsi de suite. On se pose des questions, on prend le temps qu'il faut, et après, s'il le faut, si on voit que tout est bon, et bien à ce moment-là, on peut s'exprimer. Mais de s'exprimer à tout va, ça, ce n'est pas un bon comportement. D'abord, ce qui amène la perte dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est ceux qui parlent sur les autorités, ceux qui parlent sur les savants. Ceux-là, ils perdent leur vie d'ici-bas et ils perdent leur au-delà. Ça n'a jamais été un comportement islamique. ثالثا troisièmement وتناولت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف الأمة من الخلافات والمخالفين للحق. Donc dans la recommandation, le conseil du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il y a la position de la communauté face aux divergences et face à ceux qui contredisent la vérité. فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي. Et il nous a recommandé, conseillé, de s'attacher à la vérité et de retourner à la voie droite. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطهرة ففيهما النجاة والسعادة وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية وإنهاؤها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق وكل الحلول التي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل. Donc dans cette recommandation prophétique, le prophète عليه الصلاة والسلام nous ordonne, nous recommande de s'attacher à la vérité, de retourner à la voie droite, la voie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et de ses califes bien guidés رضي الله عنهم. Et leur sunnah, leur voie, leur méthodologie n'est autre que le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est toute vérité. Jamais le faux ne peut l'atteindre, ni par devant ni par derrière. Il est toute vérité, c'est la parole divine. Et la sunnah de son messager pur, dedans, dans le livre. Et la sunnah, on retrouve la survie, le bonheur, et il y a toutes les solutions authentiques pour toutes les discordes et toutes les disputes et toutes les divergences qu'on retrouve chez les factions islamiques. Et c'est là-dedans qu'on trouvera le moyen de mettre un terme final à ces discordes et ces divergences d'une manière qui plaît et qui est agréée par Allah Azza wa Jal et qui va unifier la parole des musulmans sur la vérité. Et toute solution qu'on nous rapporte, qu'on nous ramène, qui ne sont pas basées sur le livre et la sunna, ce sont des solutions fausses et qui au final n'amènera qu'un mal et il n'y aura jamais de réussite avec. Donc, quand on voit ça, on entend des gens dire une règle d'or. C'est quoi la règle d'or qu'ils ont ? Une règle que Hassan al-Banna leur a ramenée. Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, qui est décédé en 1949. Une des sectes qui a le plus égaré les gens, qui a été la cause de beaucoup de mal, et qui a propagé beaucoup de poison dans la communauté. Jusqu'à nos jours, on vit les conséquences de ce mal. Il leur a dit, dans le sens de sa phrase, « فَلْنَعْمَلْ فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَلْيَعْذُرْ بَعْضُنَا الْبَعْضُ فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ » Alors, on a des choses sur lesquelles on est d'accord, et on a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Alors, on va appliquer entre nous les choses sur lesquelles on est d'accord, et là où on n'est pas d'accord, chacun excuse l'autre. Voilà. T'as ton opinion, j'ai la mienne, t'as la tienne, tu as la tienne, voilà. C'est bon, c'est pas grave. Cette solution qui ramène Hassan al-Banna et que les frères musulmans pensent qu'il a ramené une règle que jamais aucun prophète n'a ramenée. Eux, ils peuvent peut-être penser que ça vient de l'islam. C'est pas l'islam qui a ramené cette règle. Jamais. L'islam lui a dit, vous n'êtes pas d'accord ? Revenez au livre et à la sunna. Voilà ce que dit l'islam. Voilà ce qu'il y a dans le Coran. Voilà ce qu'il y a dans la sunna. Jamais dans l'islam, il est dit, bon, bah, les choses sur lesquelles vous êtes d'accord, vous travaillez ensemble dessus. Et là, vous n'êtes pas d'accord, chacun excuse l'autre. Comment ça, chacun excuse l'autre ? Ben, c'est plus l'islam, alors. C'est en tant qu'humain qu'on vit, alors. C'est la raison, c'est chacun. Chacun, il a son opinion sur les questions. Là, on parle de religion, subhanallah. Il y a une discorde dans la religion. Il y a des divergences dans la religion. Qui dit vrai, qui dit faux ? Qui a raison, qui a tort ? Comment on peut le savoir ? Si ce n'est en retournant au texte religieux. Celui qui est et qui a les arguments avec les textes religieux, c'est celui qui a la vérité. Allah dit dans le Coran, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Il n'y a pas une chose sur laquelle vous divergez sans que son jugement soit auprès d'Allah. Et Allah dit dans le Coran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et à son messager, au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète, alayhi salam, il dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de divergences. Donc la maladie, elle va venir. Et elle est là, la maladie, comme l'a prédit le prophète, alayhi salam. Mais juste derrière, il nous donne le remède. فعليكم بالسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. Alors, lorsque ça va arriver, cramponnez-vous. Retournez à ma sunna et à celle de mes califes, bien guidés. L'établir, qu'est-ce qu'ils disent ? Il n'y a pas que les frères musulmans. Toutes les sectes, ils ont des problèmes. C'est pour ça que c'est des sectes. Et l'établir, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on parle dans notre da'wah que sur les questions sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Là où il y a des divergences, on n'en parle pas. Et c'est pour cela qu'ils ne s'attardent pas sur la ilaha illallah, qui est la base même de l'islam. Ils ne s'attardent pas. La ilaha illallah, c'est de sortir du cœur la mauvaise certitude pour mettre à sa place la bonne certitude. Mais cette explication, c'est qui l'a donnée ? Elle est dans le livre d'Allah. Elle est dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'où ils ont ramené cette explication ? Puis, ça veut dire quoi ? Allah, il nous a créés. C'est lui qui nous donne la vie, qui nous donne la mort. Il y a quelqu'un qui va dire le contraire ? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui va se lever et va dire « Non, je ne suis pas d'accord ?» Jamais personne ne dira le contraire. Si c'était ça, la ilaha illallah, mes Quraysh, ils auraient pris le prophète dans les bras. On est ensemble, on est d'accord. On est d'accord. Les statues, on n'a jamais dit que c'est eux qui ont créé ou qui donnent la vie ou qui donnent la mort. On est complètement d'accord. Subhanallah. C'est une explication qui ne sort pas de l'explication donnée par Abu Jahl ou Abu Lahab. Ça, c'est... Il n'y a pas de différence. Subhanallah. Donc, c'est quelqu'un qui vous trompe dans la base même, la clé de l'islam, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Ouais, c'est grave. Pourquoi ? Non, mais si tu parles de la ilaha illallah réellement, il y en a, ils ne seront pas d'accord. Et la ilaha illallah, elle est là pour ça aussi. Elle est là pour discerner. Elle est là pour dire la vérité. Subhanallah. On ne parle pas avec mensonge. C'est une vérité. On ne ment pas au sujet d'Allah. Allah, il est le seul, l'unique à être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors de lui n'est qu'une adoration fausse et vaine. Personne n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Le culte exclusif est réservé à Allah. On se doit de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et on affirme l'adoration à Allah, l'unique, le seul. Personne n'a le droit, ni prophète, ni ange, ni pierre, ni arbre, ni eau, ni étoile, ni soleil, ni lune. Rien. Personne n'est en droit de recevoir une quelconque adoration, si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Ben là, c'est là où Quraysh, ils ont dit non. Non. Ils ont dit non. Parce que nous, on adore autre que Allah. On ne peut pas réunir toutes ces adorations pour que Allah tout seul. Ils veulent diversifier et aussi donner des adorations à autre que Allah. Et même s'ils ont reconnu l'existence d'Allah, ils ont reconnu la seigneurie d'Allah, et qu'Allah il est le seul dans ses actes, c'est lui qui a créé, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, ceci ne les a pas fait entrer dans l'islam. Et ils ont été considérés comme des polythéistes et des mécréants. Donc comment quelqu'un peut se lever, dire je prêche à l'islam, mais tu appelles à quoi ? Ouais, mais nous, on a fait sortir beaucoup de gens des péchés. Harry, ça se posait la question, est-ce que tu les as amenés dans un meilleur chemin ou un pire chemin ? Parce que des péchés, si c'était des musulmans, ils étaient dans les péchés. Tu les as fait quitter les péchés pour les amener dans les innovations. Et que dire si tu les as amenés dans le shirk ? Alors, je vais te dire, dans quoi tu les as ramenés ? Est-ce que tu leur as rendu service ou plutôt le contraire ? Ils étaient peut-être mieux là où ils étaient que là où tu les as amenés. Mais les gens réfléchissent d'eux-mêmes. Ils ne réfléchissent pas avec la balance du Coran et de la Sunna. Subhanallah. Et c'est pour ça que l'innovation, c'est pire que le péché. Donc, s'il ne sait pas, qu'il s'assoit, qu'il apprend. Personne ne lui a demandé de se lever. Alors maintenant, si quelqu'un l'a forcé, il avait peur de perdre sa vie, qu'ils nous le disent. À ma connaissance, non. C'est de leur plein gré qu'ils se sont levés, ils ont voulu parler. Voilà. Ils ont accepté de se lever avec ignorance et de parler. Ça, c'est parmi les problèmes. Et c'est pour cela que quand vient les égarements des khawarij, les rois de l'établir, ils rentrent dedans facilement. ils ne sont pas préparés contre le Khawarij. Plutôt le contraire. Ils sont préparés pour accepter les idées des Khawarij. C'est pour ça que les Khawarij n'ont pas beaucoup de difficultés à les récupérer. Subhanallah.
رابعا كتريما وتناولت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع ومحدثات الأمور فكم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أخطار البدع ومفاسدها مع البيان النير أنها ضلالة وأنها في النار.
Donc dans la recommandation du prophète عليه الصلاة والسلام il y a la mise en garde contre les innovations et les nouveautés en religion. Combien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre les dangers des innovations et ses conséquences néfastes. Et il l'a très bien expliqué et clarifié que c'est de l'égarement. C'est bien clair et explicite que les innovations, les nouveautés en religion, c'est de l'égarement et que cet égarement il est voué au feu.
فما الذي يدعو كثيرا من المسلمين الى الوقوع فيها والتشبث بها.
Donc qu'est-ce qui fait, une question qui se pose, qu'est-ce qui fait que beaucoup de musulmans sont attirés par les innovations, les nouveautés en religion?
وقد أكرمهم الله بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دين كامل غاية الكمال لا نقص فيه.
Alors qu'Allah تبارك وتعالى les a honorés avec un livre que jamais le faux ne peut l'atteindre ni de près ni de loin, une religion parfaite, complète, qui ne comporte aucune diminution, aucun manquement.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
Aujourd'hui, je vous ai comblé de mes bienfaits. Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion.
إنه من المؤسف حقا أن ترى كثيرا من الأمة الإسلامية لا تعتمد على القرآن ولا على السنة في عقائدها.
Il est désolant vraiment de voir que beaucoup de personnes de la communauté musulmane ne se remettent pas au livre d'Allah, au Coran et à la Sunna du prophète sallam dans le domaine de la croyance. La croyance, ils disent, c'est la croyance qu'avaient les gens du village ou du pays. La croyance, c'est la croyance du livre qu'on a hérité ou de la poésie qu'on a hérité. Hein? Mais sans vérifier est-ce que c'est conforme au Coran et à la Sunna. Beaucoup de gens, c'est quoi la croyance? Ben, si jamais il a fait un peu l'école religieuse traditionnelle dans le pays ou dans le village, il va te réciter quelques vers de poésie. Pourquoi c'est ça la croyance? Oui, parce qu'un tel, il a dit dans son vers de poésie telle chose. Mais tu demandes, mais c'est conforme au Coran et à la Sunna? Il n'en sait rien. Il ne s'est jamais posé la question. La question n'est jamais venue. Au contraire, eux, ils ont dit que, parmi des chiyours ou des savants de l'égarement, que de se servir du Coran et de la Sunna, c'est une des bases de l'égarement. Wal'iyadhu billah. Ils disent que de prendre de ce qui apparaît du Coran et de la Sunna, c'est un des fondements de la mécréance. Les gens, ils avaient peur. Ah non, non, en vérité, quand on lit le Coran et la Sunna, ce qu'on en comprend, c'est pas ça. Il a une face cachée. Ah, les soufis, ils aiment bien ça. Il y a toujours des secrets. Alif, lam, mim. Un arabe simple, il dit, ce sont des lettres de l'alphabet. Non, il y a des secrets derrière. Chaque lettre, elle a quelque chose. Elle veut dire quelque chose. Les gens, ils aiment ça. Ça veut dire un chiffre. Et le chiffre, il veut dire quelque chose. C'est pour ça que quand ils font les talismans, les gris-gris, là, qu'ils font, hein, ils font des quadrillages, ils mettent des chiffres, ils mettent des lettres. Et en vérité, chaque lettre, elle a un code. Wal'iyadhu billah. Tout ça, c'est tout dans elle. C'est de l'égarement pur. Mais ils font croire ça aux gens. Et les gens, il y a même des ouvrages écrits par ces charlatans. Les secrets des lettres. Naam. Et il pense que c'est une science. Et celui qui approfondit ça, ah, lui, il connaît. Et qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien du tout, en réalité. C'est que des choses peut-être venant du diable et des démons parmi les hommes et les djinns. Wal'iyadhu billah. Et ils font peur aux gens avec ça. Subhanallah. Et donc, il y en a un qui c'est, il a un tafsir en plus. Hein. Il s'appelle Sawi. Il a dit de prendre de ce qui apparaît du Coran, c'est un des fondements de la mécréance. Wal'iyadhu billah. Alors que le Coran est dans une langue arabe claire. Bien sûr, il y a des règles dans le tafsir et tout. Mais à la base, on prend de ce qui apparaît des mots. À la base, chez les ulama, on prend de ce qui apparaît. On ne prend pas ce qui apparaît si on a un autre texte qui vient nous le prouver. Hein, qui vient nous le prouver. Mais sinon, on prend de ce qui apparaît. Quand Allah dit « Wa aqimus salat », accomplissez la prière. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas, ça veut dire quoi ? Allah al-musta'an. U'budullah, adorez Allah. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Non. Non, toi, tu ne peux pas. Il n'y a que certains hommes qui peuvent, qui ont la possibilité, ils ont atteint un degré. Wal'iyadhu billah. Le soufisme, il a été la cause de beaucoup de mal. Et il a beaucoup contribué à la décadence de la communauté musulmane. Eux, ils pensent qu'ils ont protégé la communauté. Ils disent, oui, c'est grâce aux confréries soufis que l'islam a été préservé pendant la colonisation. Et quel islam il a été préservé? À part avoir appelé les gens à adorer les tombes et à tourner autour des tombes et à égorger je ne sais combien de bêtes à tel endroit et faire des pèlerinages dans des lieux que jamais Allah n'a demandé. C'est quel islam il a été préservé? L'islam il est préservé par les ulama de la sunna, les ulama du tawhid, ceux qui font revivre la véritable religion authentique comme le prophète s'en est enseigné. Donc les gens ils vont vers l'égarement alors que à côté d'eux il y a le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Innahu min al-mu'sif haqqan an tara kathiran min al-ummati al-islamiyya la ta'tamidu ala al-Qur'an wa la ala al-sunna fi aqaidiha وقد طغت البدع على السنن في عبادتها وتقاليدها وصدق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Donc hein, c'est vraiment désolant de voir la situation de la communauté musulmane. Beaucoup d'entre eux ne s'en remettent pas au livre et à la sunna dans le domaine de la croyance et les innovations ont pris le dessus chez eux, que ce soit dans leur adoration, dans leurs mœurs, et en cela ils sont touchés par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est toute vérité lorsqu'il dit vous allez certainement suivre les voies de ceux d'avant vous. Vous allez être derrière eux, vous allez les suivre, les imiter. Ce qu'ils font, vous allez le faire. Vous allez tellement être proche d'eux que vous serez à une distance d'un empan. Un empan. Shibr. Hein, du pouce jusqu'à l'auriculaire. Ça, c'est un empan. C'est la distance. Wa dhira'an bi dhira'a. Une coudée. D'accord ? Vous êtes juste derrière eux. Ils viennent de passer, vous passez juste après eux. Même s'ils viennent à entrer dans un trou d'une bête, d'une taupe ou autre, vous allez entrer dedans. Tellement que vous êtes aveuglé par ce suivi de ces gens d'avant. Et ce qu'a dit le prophète, on le vit. Il y a beaucoup de gens qui suivent aveuglément. Ma yustafadu min al-hadith. Les leçons à retenir du hadith. Mashru'iyatun nasiha wal wa'd lil muslimin. ويكون ذلك تخولا كما في حديث ابن مسعود. Il est légiféré de conseiller, d'exhorter les musulmans de temps à autre. L'exhortation, elle est bien, elle est demandée, mais il ne faut pas aller dans l'excès. Il y a des gens, par exemple, ils pensent que tout le temps, à tout moment, il faut faire des exhortations. Non, parce qu'après, la personne, elle s'enlace. Donc, de temps en temps, la personne, Surtout quand la personne elle est éveillée et elle veut écouter, là c'est un moment profitable. Mais de vouloir, parce que par exemple, il y a des gens, une personne, il n'arrête pas d'envoyer des rappels. L'autre, il lui a dit, écoute, arrête de m'envoyer trop de rappels. L'autre, il dit, ah, mais il est où le mal? J'envoie des rappels. Il est où le mal? Peut-être que tu l'embêtes. À tout va, tu lui envoies, et c'est pas à tout moment que la personne a envie de recevoir quoi que ce soit. Il y a un moment pour chaque chose. Subhanallah. Il y a des gens, ils pensent que c'est tout le temps. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. C'est comme, par exemple, on est invité dans un mariage, une fête de mariage. On est invité pour une cérémonie quelconque. Les gens sont en train de rire un peu, parler, discuter. Il y en a, ils ne sont pas contents. Non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? T'as cru que t'es venu à l'enterrement? C'est pas un enterrement. C'est un moment de joie. Les gens, ils ont le droit de parler, de discuter. Tant qu'il n'y a pas de haram dans ce qu'ils ont fait, on les laisse tranquilles, les gens. Non, mais il faut un dars. Qui a dit qu'il faut un dars? C'est marqué où? Mais qu'on profite de la réunion des gens pour faire une petite exhortation. Si les gens sont aptes à pouvoir écouter, il n'y a pas de problème. Mais de dire que c'est une règle qu'il y ait un cours, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas... Dans la religion, ça n'existe pas. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que non, les gens, non, ils n'ont pas à rigoler, ils n'ont pas à rire, ils n'ont pas à plaisanter dans ce qui est permis, ils n'ont pas à discuter. Ils parlent de la dunya, mais tu veux qu'ils parlent de quoi? Subhanallah. Ils ont le droit, tant qu'il n'y a pas d'interdit. Ils ne sont pas dans une mosquée, ils sont, ils sont chez une personne, ils sont dans une salle. Il n'y a rien. Donc il faut un juste milieu là-dessus. Hein? C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui veulent aucun rappel, qui veulent rien du tout, mais de l'autre côté, il y a des gens qui font fuir. Donc il faut faire attention. Hein? C'est pas si la personne elle te dit, Harry, tu m'envoies un message une fois par-ci par-là. Non, mais pourquoi? C'est son droit. C'est, il veut pas que tu. Et ça se trouve, tu n'es pas le seul à lui envoyer. T'imagines s'il y a du monde qui lui envoie tes messages, la personne elle ne peut pas. À chaque fois que tu le rencontres, non. De temps en temps, c'est. Et il est bien de parler devant une personne lorsqu'elle te le demande et elle est prête à t'écouter. Ne force pas les gens à t'écouter. Ça, c'est important. Et même pour le relationnel entre les gens, c'est important. Et Ibn Mas'ud, donc de temps en temps, comme il est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud nous l'a demandé de rajouter. Il leur a dit non, sinon vous allez vous enlacer. Il parle et il s'arrête à un moment où les gens, ils en veulent encore. Comme ça, ils vont revenir pour la prochaine fois pour écouter un autre cours. Subhanallah. Regardez, dans la sunna du prophète, il n'y a que le bien. La khutba, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, tout le monde, en général, tout le monde le sait. La khutba doit être courte, la prière doit être longue. Les gens, ils font la khutba longue, et une prière courte. Même les sourates qu'il faudrait, c'est pas une obligation, mais c'est sunna, c'est bien de les réciter. Fait le jumu'ah, ils ne les font pas. Pourquoi? Parce que leur khutbah était tellement longue qu'ils se disent, bon, bah, la prière, on la finit vite fait. Subhanallah. Tout le contraire de la sunna. Et même des gens qui se plaignent. Il y en a, ils sont là en train de regarder leur montre. Il y en a, ils sont en train de se dire, comment je vais faire? J'ai pris une heure de pause. Pour lui, c'était largement suffisant. Eh bien, il voit qu'il n'est pas dans les temps. C'est un problème. Il n'est pas tranquillisé. Même sa prière, je ne sais pas dans quel état il l'a fait. Subhanallah. On n'a pas le droit de prendre en otage les gens. C'est interdit. C'est interdit de prendre en otage les gens. Subhanallah. Mais l'imam, ou les responsables, ou je ne sais qui est derrière tout ça, puisqu'ils savent que les gens sont obligés de faire la prière du vendredi, eh bien, ils en profitent. Ouais, mais c'est le seul moment où tout le monde vient. Il y en a, ils ne viennent jamais à la mosquée. Ils ne viennent que le vendredi. Mais toutes tes explications que tu me ramènes, tu les ramènes pour quelle raison? Pour contrer un hadith du prophète. Au final, c'est tout ce que tu me ramènes comme explication, ça voudrait dire que Allah tabaraka wa ta'ala lui a échappé une chose qui allait se passer à une époque précise. Subhanallah. Wallah, il faut faire attention. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le législateur. S'il a fait que la khutbah doit être courte dans l'enseignement du prophète, et le prophète ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. S'il a dit la khutbah doit être courte, elle doit être courte. Subhanallah. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Subhanallah. 5 minutes, c'est bon. C'est réglé. 2 minutes, c'est réglé. Il n'y a pas besoin. Une khutba, en 2-3 minutes, on peut la... c'est fini. Voilà. En 5 minutes, tout le monde est parti. Subhanallah. Le Jumu'ah, c'est ça. Le Jumu'ah, c'est un moment d'exhortation. Quelques versets coraniques, hadith du prophète sallam. Voilà. C'est une exhortation. Ouais, mais on a beaucoup de choses à dire à la communauté. Tu as d'autres moments pour le dire. Mais lui, il sait que les autres moments, les gens, ils sont libres. Ils ont fait la prière de l'Asr, comme là. Là, vous êtes libre. Celui qui veut se lever, à tout moment, il peut se lever. Il n'y a aucune obligation, n'est-ce pas? Eh ben non, il ne veut pas ça. Il veut un moment où il est sûr que personne ne pourra bouger. C'est de prendre en otage les gens. Ils ont été encore plus loin. Ramadan, il y a besoin d'argent. Ils bloquent les gens. Ça existe. Il n'y a pas loin d'ici, dans des mosquées, ils le font. Ça, l'Isha, les gens, ils attendent. Surtout maintenant, l'Isha, il est tard. Hein, il est tard. Ils bloquent les gens. On ne prie pas tant qu'il n'y a pas tant d'argent. Oui, oui, si, ils le font. Ça, c'est l'islam, ça. Ça va même encore plus loin. Un de leurs maîtres dans ces pensées-là, Hassan et Hussein, un maître de l'égarement en France, il a dit quoi? Il préfère les gens qui viennent ramener de l'argent pour la mosquée et qui ne prient pas que ceux qui viennent salir le tapis 5 fois par jour. C'est comme ça qu'il l'a dit. A'udhu billah. A'udhu billah. Et si la personne, elle n'a rien à donner en argent, et qu'il dit qu'il n'est pas en train de faire des doigts, qu'une doa, Allah, il va lui exaucer, ça va mettre la bénédiction, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il t'en sait? Comment tu peux? C'est quoi ces phrases? Il appelle les gens qui viennent prier 5 fois par jour, des gens qui viennent salir le tapis. A'udhu billah. Il n'y a plus de limite, en vrai. Les gens de l'égarement, à un moment donné, ils ont... Et comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza lam tastahi, fasna, mashit. » Si tu n'as plus de pudeur, fais ce que tu veux. On n'est plus étonné maintenant. Allahul musta'an. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Al-amr bi taqwa Allah fil mu'idha. D'ordonner la crainte d'Allah dans l'exhortation. Fil hadith alam min a'lam al-nubuwa. Dans ce hadith, il y a un des signes, parmi les signes de la prophétie. Car le prophète a bien prédit qu'il y aura la divergence dans la communauté. Et il a eu lieu. Et il y a aussi une mise en garde contre la divergence, la discorde, que ce soit dans les fondements, les bases de la religion ou les branches de la religion. وفيه الرجوع الى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. Et il y a aussi l'ordre de retourner à la voie, méthodologie, le chemin du messager صلى الله عليه وسلم ainsi que celui de ses califes bien guidés. وفيه الزجر عن البدع والتحذير منها. Et il y a aussi mise en garde contre les innovations. Contre les innovations. Et aussi, il est bien précisé, bien explicite que toutes les innovations sont un égarement, c'est-à-dire il n'y a aucune bonne innovation en islam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.